Ici, hein, dans ce lieu, on sent la présence de Dieu et je suis très heureux parce qu'il y a quelque chose de bon qui est prévu pour nous au programme. C'est dans l'évangile de Matthieu que nous trouverons ce que Dieu a prévu comme parole pour nous dans cet après-midi. Pour tous ceux qui nous écoutent, que ce soit sur Internet ou pour vous qui êtes là, ouvrez votre cœur. Vous êtes prêts? On demande à Dieu de nous bénir. Seigneur, il y a beaucoup de paroles humaines qui peuvent nous toucher, nous influencer, mais ça n'a pas de conséquences à long terme dans nos décisions et dans nos actions. Alors je prie pour que tu puisses censurer, bloquer, limiter les paroles humaines et donner comme un trait divin, comme une image divine pour quelqu'un qui a besoin d'une parole de toi en cet instant, qui écoute ce message. Au nom de Jésus, fais-toi une place chez moi et chez la personne qui entend. Au nom de Jésus, amen. Amen. Wow. Vous savez, je dois confesser une de mes faiblesses. J'ai plutôt une bonne santé. Mais il m'arrive quelque chose qui normalement arrive aux personnes qui sont un peu plus larges que moi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Quand je dis un peu plus large que moi. Et notamment aux personnes qui ronflent. Moi, je ronfle pas. Mais il y a une injustice. C'est que, alors que je ne ronfle pas et que théoriquement, je ne suis pas extrêmement large, je fais de l'apnée du sommeil. C'est bête. Mais surtout, l'apnée du sommeil, ça vous fatigue extraordinairement et ça vous fait que, en pleine nuit, notamment lorsqu'il y a eu des périodes de stress, je peux plus respirer. Je suis là, 3 heures du matin. C'est pas un moment où vous êtes en train de réfléchir normalement. 3 heures du matin, je me réveille en sursaut, je suis là. Et puis, en réfléchissant à cette période que l'on vit dans la nuit, j'ai eu une pensée, c'est que c'est dans les plus durs moments de notre vie, lorsque l'on passe par la nuit, que l'on apprend les leçons les plus précieuses pour nos vies. Le thème d'aujourd'hui, c'est cette leçon que l'on apprend que dans les durs moments. C'est cette leçon que l'on apprend que dans les durs moments, où quelque part, tout autour se dérobe et on se retrouve seul face à notre problème et Dieu quelque part. On va voir ensemble dans l'évangile de Matthieu chapitre 14, on lit à partir du verset 22. Aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans la barque pour qu'ils le précèdent de l'autre côté du lac pendant qu'il renverrait la foule. Et quand tout le monde se fut dispersé, il gravit la colline pour prier à l'écart, à la tombée de la nuit, il était là tout seul. Et pendant ce temps, à plusieurs centaines de mètres au large, la barque luttait péniblement contre les vagues car les vents étaient contraires. Et vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers les disciples en marchant sur les eaux du lac. Et quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent pris de panique. « C'est un fantôme !» dirent-ils. Et ils se mirent à pousser des cris de frayeur. Mais Jésus leur parla aussitôt. « Rassurez-vous !» leur dit-il. « C'est moi, n'ayez pas peur !» Alors Pierre lui dit « Si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. » « Viens !» lui dit Jésus. « Amen !» Wouh ! Quel courage ! Vous savez, lorsque vous passez par des moments où vous ne maîtrisez plus rien, vous allez en apprendre des choses. Premièrement, vous allez apprendre des leçons sur les autres. Et on va avoir deux leçons sur les autres. Vous allez apprendre des choses sur vous-même. On va avoir deux leçons sur vous-même et vous allez en apprendre sur Dieu. Les clichés et vos phrases toutes faites sur Dieu vont voler en éclats. Et vous apprendrez des choses que l'on apprend que dans les durs moments. Et deux choses sur les autres, plus deux choses sur nous-mêmes, plus trois choses sur Dieu, ça fait sept. J'ai passé la classe de CE1. Je sais que 2 + 2 + 3 = 7. Yes, c'est cette leçon que l'on apprend que dans les durs moments. On est parti. Ce que j'apprends sur les autres, leçon numéro 1. L'expérience ne suffit pas. L'expérience, parfois, ne suffit pas. Je voudrais parler de cette barque. La barque que l'on voit cet après-midi était une barque donc juive, construite certainement en Galilée. Une barque qui devait faire 6-7 mètres de long. Il y a 12 personnes qui sont en train de ramer. Premièrement, on est tous dans la même galère. Ça veut dire quoi? Vous savez, on se croit tous exceptionnels. On se dit, ce que je vis là, c'est terrible! Mais On vit tous un moment où, affectivement, quelqu'un que l'on aime, quelqu'un avec qui on a essayé de tisser une relation, nous rejette. On le vit tous. On le vit tous à un moment où l'examen, alors qu'on l'avait préparé, on a des résultats qui nous blessent. On le vit tous. On vit tous un moment où, malgré nos efforts dans nos finances, malgré le fait d'avoir essayé d'être rigoureux, on ne finisse pas le mois. On le vit tous. On vit tous un jour une maladie telle qu'on finit par en douter que Dieu puisse encore nous guérir. On passe tous par là. Alors arrêtez de vous dire « je suis le seul là-dedans ». Il y a 12 personnes dans la barque, quel que soit leur passé, ils rament. Ils rament. Alors que tu trouves ça rassurant ou pas, c'est pas la question. C'est est-ce que c'est vrai ? C'est vrai. Même les professionnels rament. Dans cette barque, il y avait 3 professionnels. Pierre, Jacques et Jean étaient des personnes qui avaient tous une entreprise spécialisée dans la pêche. Le lac, ils l'ont fait combien de fois ? Ils l'ont fait de long en large, en travers, des dizaines, peut-être des centaines de fois. Donc, ils sont passés par des tempêtes. Ils ont vu des vents contraires. Ils ont eu la maladie que tu as eue. Ils ont tout et ils ont cumulé. Mais il y a un moment où, alors que l'expérience qu'ils ont est déjà énorme, ils tapent une limite psychologique où ça, on ne va pas bien. Ça dépasse nos limites. C'est pour ça que j'ai marqué, on atteint un jour tous nos limites. Je suis capable de lutter contre la grippe, mais je ne sais pas lutter contre le cancer. Je sais gérer un conflit de couple plus ou moins, mais ce n'est pas pareil de vivre un divorce. Je sais ce que c'est que le patron parle mal de nous, nous met de la pression et fasse du chantage affectif ou du chantage au travail, mais c'est autre chose de vivre un licenciement. Parce que ça, on arrive dans une zone où on ne peut plus contrôler et ça ne dépend plus de nous. Et vous avez beau dire à l'autre qui est derrière, « Rame plus fort, Thomas, oh !» Il dit, « Je peux pas !» Tu te retournes, tu dis, « Mais il n'y a que moi qui rame là-dedans, qui c'est qui ne fait pas son job là ? On n'avance pas !» On est tous en train de ramer. Deuxième chose, deuxième leçon, vous êtes là ? Les réactions sont différentes. Mais on a tous peur. Vous savez, que vous soyez dans une Twingo ou dans une Ferrari, quand vous faites un aquaplaning, vous avez peur. Et que ça soit une Twingo ou une Ferrari, quand la voiture ne répond plus et part dans une direction inverse de ce que vous êtes en train d'essayer de lui faire faire, vous avez peur. Alors, il y a quand même des réactions qui sont différentes. Les yeux de ce bonhomme-là, ça m'angoisse un petit peu. Pourquoi ? Parce que nos réactions vont dépendre de nos peurs les plus anciennes. On va faire remonter, lorsque l'on ne va pas bien, une zone de peur incroyable. Vous savez, quand je fais de l'apnée du sommeil à 3 heures du matin, je souhaiterais pouvoir vous dire et témoigner, mais je serais un hypocrite, et ce serait un énorme mensonge, que ma première réaction quand je me réveille, c'est de dire « Alléluia, gloire à Dieu !» C'est pas vrai. Ma première réaction, c'est « Ah, j'ai peur !» Je vais pas bien. Et les disciples, ils me déculpabilisent parce que pour des grands gaillards de la pêche qui ont fait le lac de long en large en travers, ils voient Jésus arriver. Vous savez ce qu'ils crient ? Un fantôme ! Excusez-moi, dans la barque, je pourrais parler à Thomas, s'il vous plaît ? Attends, Thomas. Non, mais vous prenez Thomas dans une période normale et vous lui dites, Thomas, regarde-moi en face, toi qui es un hyper rationnel cartésien et tout, qui a fait un bac scientifique. Dis-moi, Thomas, les fantômes. Arrête, n'importe quoi. J'y crois pas, des nuls. Sauf que là, ils crient tous. Thomas ou pas Thomas, cartésien ou pas cartésien, ils ont tous atteint leur zone limite et leur réaction, c'est la panique. Donc vous me le faites dans le sens que vous voulez. Vous prenez n'importe quelle femme que vous admirez comme étant super stable spirituellement, n'importe quel homme de Dieu dont vous vantez sur Internet les mérites. Et si vous viviez avec lui, vous verrez que parfois aussi, eux, ils paniquent. Et leur réaction, c'est qu'ils crient et c'est les peurs primaires qui reviennent. C'est l'instinct qui revient. Quand on va pas bien, c'est pas naturel d'avoir du parler en langue qui sort de notre bouche. Ça finit par arriver parce qu'on sait que c'est là la solution. C'est de confesser le nom de Jésus. Mais au tout début, on est en face d'un fantôme. C'est bon ? Bon, bah, les vieilles peurs remontent à la surface et vous allez parler créole. Si votre langue d'origine, c'est le créole, vous allez parler votre langue de stress parce que à la base, c'est les peurs les plus anciennes qui reviennent. Une fois que vous avez compris ce qui se passe chez les autres, ça peut peut-être vous aider à vous tirer des leçons sur vous-même. Alors maintenant, l'autre point, donc, ce que j'apprends sur moi-même. Leçon numéro 3, ose sortir de ta barque. Oui, parce que dans l'équipe des 12, il y a un grand malade. Demande à ton voisin, est-ce que tu es un grand malade ? Non, fais-le, ça va le détendre, il va arrêter de digérer comme ça. Est-ce que tu es un grand malade ? Parce que il y a un grand malade. Vous vous rappelez Thomas la semaine dernière ? Hyper rationnel et tout, il a douté parce qu'il voulait avoir des preuves. C'est bon, votre voisin n'ose pas vous répondre de toute façon, arrêtez de le questionner. Regardez ici. Vous imaginez ce qui se passe. C'est pas de la badoie qu'on vient de renverser sur la table. On est en train de passer une tempête où il y a des vagues de 1 à 2 mètres. Il y a la barque là qui fait des... Déjà, quand vous allez au parc Astérix ou à Disneyland, vous criez, alors vous savez que vous risquez rien. Alors imaginez si vous risquez quelque chose. Ils sont dans la barque et ça tangue de tous les côtés. Et Jésus vient et Jésus leur dit... Finalement, Jésus il fait comme les pasteurs, on dirait presque que c'est des phrases toutes faites, mais non. Mais il dit, n'ayez pas peur. T'es gentil. Mais j'ai quand même un peu peur, ça veut dire. Hein, mais c'est ça, on sait que c'est ça la solution, c'est n'ayez pas peur. Et tous disent, on est bien contents, Seigneur, que tu nous dises d'avoir pas peur, mais on a quand même peur. Mais il y a un grand malade dans la barque. Tu me pardonnes, Pierre, de t'appeler comme ça. Oui, je pense qu'il me pardonne. Dans la barque, il y a Simon Pierre qui, sa réaction... Quand Jésus lui dit, n'ayez pas peur, au lieu de, parce qu'il parle toujours en premier, Simon, hein. C'est une grande bouche. Et vous savez ce qu'il va dire au Seigneur? Il va dire, moi, j'aurais prié du genre, Seigneur, c'est l'horreur, tu calmes la tempête. Et puis, comme j'ai un peu traîné dans les églises, je dirais, au nom de Jésus, je fais taire le vent et je chasse les vagues. Ça, c'est naturel. Vous êtes d'accord? Vous auriez fait ça, vous allez tous faire ça. Vous dire, au nom de Jésus, la maladie s'en va. Au nom de Jésus, le patron devient gentil. Au nom de Jésus. Mais ce que Pierre va faire, il dit pas au nom de Jésus, je calme. Il dit, oh purée, c'est ça que j'appelle un gros malade. Ça bouge, des trucs de fou. Jésus, dis-moi de venir vers toi. Mais il y a Thomas qui dit, mais n'importe quoi. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait pas pour faire son malin? Et en fait, ce que Pierre a de plus que les autres, que vous le vouliez ou non, c'est qu'il a une grande foi. Et il dit à Jésus, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Et Jésus lui dit, chiche, tu viens. Parce que Jésus est fier lorsque tu quittes ta zone de confort pour prendre une décision qui lui fasse plaisir et qui va vers lui. Je ne parle pas d'une décision du n'importe quoi que tu prendrais, une promotion, tout ça qui t'éloignerait de Dieu. Si c'est une décision qui te rapproche de Dieu, Dieu te dit, chiche, fais-le. Que ça soit pour quelqu'un de ta famille que tu veux amener vers Dieu, que ça soit par rapport à l'église, un service, etc. Si c'est vraiment pour Dieu, si c'est pour te rapprocher de Jésus, Jésus te dit, chiche, fais-le, sors de ta zone de confort. Vous savez, j'aimais cette phrase, c'est bien sur Facebook hein, que tu l'as écrit, David. Il y avait une phrase, je crois que c'est sur Facebook que j'ai vu un commentaire de David Porter qui l'a laissé. C'est un grand auteur, mais je l'ai peut-être mal recopié cette semaine. Mais un bateau est en sécurité quand il reste au port. Vous êtes d'accord avec ça? Pourtant, il n'a pas été construit pour ça. Si vous voulez rester en sécurité, vous allez passer votre vie en sécurité, mais vous allez surtout passer à côté de votre vie. Il y a un moment où, que vous le vouliez ou non, il faudra sortir de la barque. Parce que si tu veux voir des choses extraordinaires, tu vas devoir un moment prendre une décision qui n'est pas ordinaire. C'est pour ça que j'ai marqué, tu ne vis des choses extraordinaires qu'en agissant de façon non ordinaire. Regardez ici. Il y a dans cette barque un homme qui s'appelle Pierre et qui dit, j'y vais. Maintenant, quand il enjambe la barrière, je suis sûr qu'il y a plein de phrases. Il y a ceux qui lui mettent même de la culpabilité en disant, lâcheur! Il y a ceux qui disent, orgueilleux. Il y a ceux qui disent à Pierre, franchement, tu vas faire 2 mètres et tu vas nous crier à l'aide. On a tous, quand on sort de notre zone de confort, en fait, de voir quelqu'un qui a plus de foi que nous, ça nous met mal à l'aise. Quand je vois quelqu'un qui est capable de prendre un risque que moi, j'ai pas envie de prendre, je vais cacher derrière plein de réflexions. Je vais dire, mais il est pas sage, il est pas assez organisé dans sa tête. Mais à la base, c'est peut-être parce que moi, j'ai la trouille de le faire. Et que je suis pas capable de prendre le risque qu'il est en train de prendre. Donc attention à ta façon dont tu juges les autres. Simon-Pierre, il sort. Et la Bible dit qu'à ce moment-là, Simon commence, il descendit. C'est le verset 29. Jésus lui dit, viens. Aussitôt, Pierre descendit de la barque, se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Leçon numéro 4, écoute et regarde Jésus. Écoute, parce que c'est sur une seule parole de Jésus qu'il s'en va. Et il reste les yeux sur Jésus. Comment ça se passe? Allez, imaginez-le. Comment ça se passe? Fais le premier mètre dans ta tête. Mettons que Jésus, puisqu'ils n'arrivent pas à discerner complètement Jésus, mettons que Jésus est à 15, 20 mètres, peut-être 30 mètres, ça dépend de la lune. Vous avez des vagues, donc vous voyez Jésus, vous voyez plus Jésus, vous voyez Jésus, vous voyez plus Jésus, vous voyez Jésus, vous voyez plus Jésus. Et puis il y a l'autre malade rempli de foi qui saute et qui dit « Salut les gars, bon voyage !» Il part, mais attendez, est-ce que les vagues s'arrêtent? Est-ce que le vent s'arrête? Donc comment ça se passe pour Pierre? Il fait, il descend dans le creux, mais là il y a la vague qui arrive. Donc là, fais gaffe Pierre, la vague! Il fait ça, hein? Parce qu'il va pas faire... En fait, les vagues, c'est des paquets, hein? Moi, je viens de Bretagne, je sais ce que c'est. Hein. Vous allez dans l'océan, c'est des paquets. Il y a du vent, là, il y a du vent, hein? On est en train de parler de marins expérimentés qui ont peur. Donc, il y a des vagues qui font au moins 1 mètre. Donc, il fait quasiment du son hauteur à chaque vague, hein? Alors, au début, les autres, ils disent... Si quelqu'un avait un dentier, il faudrait le recoller le dentier. Et moi, il dit, oh. Puis là, il y en a qu'un. Ouais! Vas-y, Pierre, vas-y, vas-y, elle arrive. Et du coup, lui qui était hyper critiqué, il devient la star du bateau, quoi. Oui, parce que, en fait, ceux qui te critiquaient, qui disaient, mais fais jamais ça, change pas ton travail. Oh là là, service, ça va te faire trop. Puis quand ils te voient que tu arrives à le faire, ils disent, waouh. Bon. J'aimerais que l'histoire se finisse là, mais ça se finit pas là. Parce que tant qu'il regarde vers Jésus, il se prend les vagues et hop, il les saute. Vous savez, vous avez déjà fait du 110 mètres haies. Certains, vous avez vu à la télé au JO le 110 mètres haies. Le 110 mètres haies, c'est vache, hein, ils mettent des haies en plus de mettre de la course. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, les hommes sont tordus. Hein. Mais ça me fait penser un peu à la vie humaine, c'est comme du 110 mètres haies. Et vous voyez les gars, ils se partent, à vos marques. Prêt, partez. Il y a la première haie qui vient. Et là, j'ai toujours mal au cœur pour le trop consciencieux. Le consciencieux, c'est celui qui se dit, pour bien sauter la haie, il faut que je fasse ça, 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 ça. Et le gars, il réfléchit tellement qu'il se prend la haie. Et il y en a parmi vous, des personnes, ils veulent tellement maîtriser, au lieu de regarder au fond, parce que vous avez remarqué, ils ne regardent jamais les haies. Ceux qui gagnent ne regardent jamais les haies. Ils prennent les haies comme si c'était rien du tout. Certains, ils pourraient même fermer les yeux en faisant le 110 mètres haies. Ils savent exactement, la haie est là, vas-y, je saute là maintenant. Mais s'ils calculent trop, ils se la prennent. Parce que la haie se rapproche, elle se rapproche, elle se rapproche. Ah, la haie, la haie, la haie! Bon! Et ceux qui ont fait peut-être le plus d'entraînement, des fois, c'est ceux qui se prennent la haie. Donc, à vouloir trop maîtriser, tu te fais juste mal aux genoux. Et je vois que Pierre, tant qu'il regarde au fond, il les passe, les vagues. Et puis, il y a un moment où il est dit, mais quand il remarqua, aïe, aïe, aïe. Donc, à la base, c'est parce qu'il a trop réfléchi, d'accord? Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il souffle pas plus fort, il souffle pareil. Mais dans sa tête, il vient juste de s'en rendre compte. Il prit peur et il commençait à s'enfoncer. Il s'écria, au secours, Seigneur. Trop d'informations te fera bugger. D'ailleurs, notamment pour ceux qui font des crises de panique, c'est pas que vous avez pas assez d'informations quand vous faites une crise de panique, c'est que vous avez trop d'informations. C'est que vous êtes en train d'essayer de synthétiser toutes les informations rationnelles. Est-ce que ma tension va bien? Est-ce que ma respiration est bonne? Plus vous respirez de façon réfléchit, moins bien vous respirez. Qui c'est qui a pensé à respirer la dernière minute? Levez la main. Ok, vous avez tous pourtant respiré. Donc naturellement, vous arrivez à respirer sans y penser. Mais si maintenant vous vous concentrez sur votre respiration, vous respirez moins bien. C'est vrai. Plus vous parce que votre cerveau dit wow, « Waouh, ça fait beaucoup d'infos là !» Et il veut maîtriser, et le fait de vouloir maîtriser quelque chose que vous ne pouvez pas, vous n'avez pas besoin de maîtriser, parce que Dieu le maîtrise pour vous. Ça fait partie des lois de la vie, et Dieu a calculé que c'est le genre d'informations, si tu les as en plus de tout ce que tu fais, tu bugs. Et du coup, moi, quand je me réveille la nuit, mon cerveau me dit « Respire, fais ça !» Et plus je pense au fait que je réveille, plus je vais mal. Et il suffit que je pense à autre chose, donc je me suis dit, quand je vais mal, maintenant j'ai décidé, je pense à Jésus, je pense à un chant de louange, et puis je pense à un paysage bucolique avec des petites fleurs, des petites sauterelles. Ça va mieux. Est-ce que les sauterelles sont là? Non. Est-ce que Jésus est plus là qu'il était avant? Non. Mais le fait d'avoir arrêté de focaliser sur ce qui n'allait pas, ça va mieux. Bon, je continue, je vais plus loin. Il s'avère qu'à un moment, même si c'est l'apôtre Pierre et que c'est juste le plus rempli de foi parmi nous, il bug. Et il commence à regarder, et qu'est-ce qui se passe? Qui a sauté dans le grand bassin? Levez la main. Tous ceux qui ont sauté dans le grand bassin. Sans brassard. Tous ceux qui ont sauté un jour dans un grand bassin. Il n'y a aucun nageur aujourd'hui. Tous ceux qui ont sauté dans un grand bassin, levez la main et assumez officiellement. Levez-vous. Allez, 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 allez. Ça réveillera votre voisin. Levez-vous, levez-vous. Les grands bassins, on se lève. Non, vous êtes des héros. Allez, allez. Non. Pourquoi t'as peur? Est-ce qu'on peut applaudir ces héros? Ils ont sauté dans le grand bassin. Vous pouvez vous asseoir. Que tous ceux qui ont marché sur l'eau se lèvent. Ah, vous me décevez. Regardez. Maintenant, par contre, vous allez me dire qu'est-ce qui s'est passé dans le grand bassin la première fois. Moi, je vais vous dire ce qui s'est passé. Déjà, je voulais pas trop y aller. C'était en CM2. Et il y avait le prof qui dit, mais si, vous pouvez le faire. Moi, je dis, moi, je peux pas le faire. Si, tu peux le faire. Je peux pas le faire. Et vous fermez le nez. Vous prenez votre respiration et vous dites adieu à la vie. Non, enfin, vous dites adieu à l'air pendant quelques instants. Et vous descendez progressivement dans l'eau. Ben non. C'est pour ça qu'il y a un verset qui est bizarre. Il est dit que Simon-Pierre, quand il a regardé les vagues, il n'a pas coulé direct. Moi, quand je vais dans le grand bassin, je coule direct. Vous voyez, ça prend pas des plombes. Hein. C'est le fond me dit, Yvan, viens vite. Et en général, je descends vite. Hein. Pourtant, je suis pas super gros, mais je descends vite quand même. Parce que normalement, si on touche le fond, on peut rebondir. Mais regardez ce que ça veut dire. Il y a une leçon spirituelle. La Bible dit qu'il commençait à s'enfoncer. C'est pas naturel de commencer à s'enfoncer. Ça veut dire que si le texte de la Bible a mis ce verbe « commencer à s'enfoncer », il y a déjà un miracle, mais un miracle que vous n'avez pas vu. Parce que normalement, il aurait dû dire et Pierre s'enfonça direct. Or, il s'avère qu'il y a eu une période de transition dans laquelle l'apôtre Pierre était à moitié enfoncé et continuait à avancer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il arrivait à marcher, mais qu'à moitié. Il avait de l'eau, mettons, jusqu'à la taille, ou un peu plus haut. Il était en train de descendre de plus en plus, mais il continuait à avancer alors qu'il avait commencé à sombrer. Vous savez, Dieu met des amortisseurs en dessous de toi. Tu les verras jamais. Et c'est une fois que tu seras sorti de l'eau que tu te rendras compte que Dieu n'a pas permis que tu descendes trop bas. Parce que si tu descendais trop bas, tu te serais vraiment noyé. Et alors que tu as manqué de foi, et c'est ça mon point, il arrive des moments de ma vie où j'aimerais vous dire que tout est noir ou blanc, que tout est soit j'ai la foi, soit je l'ai pas. Eh ben non, la plupart du temps, j'ai moitié de la foi, moitié pas la foi. Et dans ces moments-là, heureusement qu'il y a un amortisseur qui m'évite de plonger. Parce que si j'étais jugé en disant « t'as pas de foi, t'as qu'à couler », eh ben non. Le Seigneur met un amortisseur, une durée de temps où on continue à avancer, sauf que par contre c'est désagréable. Pourquoi c'est désagréable? Pour ceux qui sont déjà allés à la mer et qui ont eu de l'eau jusqu'à la moitié ou aux trois quarts et qu'il y avait beaucoup de vagues, qu'est-ce qui se passait? J'ai fait ça cet été. Je suis allé et il y avait des vagues qui venaient aller 30-40 cm. Comme j'avais de l'eau jusque-là, c'était trop pour moi. Quand il y avait une vague, je disais à Nathalie, « Nat, la vague !» C'est bon. « Nouvelle vague !» Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le grand inconvénient quand on est à moitié coulé, c'est qu'on se prend toutes les vagues dans la figure, alors que quand on marchait sur l'eau, c'était quand même plus agréable de les faire comme ça. Donc, il y a un handicap, on vit mal les choses. Et je dis, je sais qu'ici, il y a des personnes qui sont à moitié en train de se noyer, mais vous avez quand même la moitié la tête de l'eau. Et vous savez pas quoi ? Vous êtes en train de vous vider de votre énergie. Vous êtes en train de paniquer, mais Dieu, lui, ne panique pas. Et ça, j'en arrive à mon... Donc, regardez à Jésus, mais seulement à Jésus. Allez, pour terminer, ce que le Dieu nous apprend. Ce que j'apprends sur Dieu, pardon. Ce que j'apprends sur Dieu. Numéro 5, Dieu n'a pas peur. Pardonnez-moi, Dieu n'a vraiment pas peur. Moi, j'ai la peur d'aller me coucher le soir parce que je déteste la nuit. J'ai la peur de la solitude parce que j'ai expérimenté ça un jour dans ma vie. J'étais excessivement seul et c'est une phobie d'être seul pour moi. Mais je vois que Jésus, au chapitre 14, au verset 23, au début du texte, il est dit « Quand tout le monde se fut dispersé, il gravit la colline pour prier à l'écart et à la tombée de la nuit, il était là tout seul. » Ah ah ! Jésus n'a pas peur de la solitude. Jésus n'a pas peur de la nuit. Ton Dieu n'a pas peur de la tempête. Ton Dieu maîtrise les tempêtes. Ton Dieu n'a pas calmé la tempête. Ton Dieu maîtrise la tempête. Je vais même aller plus loin, je sais que le point 5, vous n'allez pas du tout l'aimer, mais le corollaire de ça, Dieu n'a vraiment pas peur, image suivante, de te laisser avoir peur. Dieu n'a pas peur et il est OK avec l'idée de te faire peur. Ben, ce n'est pas lui qui va te faire peur, mais c'est, il dit, la vie va te faire peur, mon gars. Il y a une fille ici, il y a une dame ici, bienvenue dans la vie. La vie, ça fait peur. En fait, si vous voudriez éviter tout risque, je vais vous conseiller quelque chose. Il faudrait vous mettre dans un lieu sécurisé. Si je réfléchis bien, il faudrait un lieu petit, super sauvegardé. Ça s'appelle une prison. OK. Si jamais vous voulez être sûr de ne pas avoir de problème de santé, il faudrait un médecin à côté, hein, un hôpital. Il faudrait une prison-hôpital. Vous voulez y aller ? Non. Donc, en fait, Dieu est obligé de t'apprendre à vivre avec les peurs de la vie. Et il est OK avec cette idée, tu es humain, et depuis qu'il t'a créé, oui, Dieu est à tes côtés. Quand tu tombes, quand tu te fais mal, quand tu es lâché par ton premier amour, quand au boulot ça se passe mal, que dans l'église t'es pas reconnu, que quelqu'un te parle mal à l'accueil, Dieu ne va pas enlever tout ça. Parce qu'il n'a pas prévu pour toi une prison, il a prévu pour toi une vie. Et la vie, ça fait mal, et la vie, il y a des joies. Mais moi, je peux te dire une chose, je remercie Dieu tous les jours de ne pas m'avoir mis dans une prison-hôpital, et qu'il m'ait donné la possibilité d'être libre, y compris, des fois, d'expérimenter des émotions dont je voudrais me passer, mais ça fait partie de la vie. Et Dieu savait... Oh là là. Non, mais vous réalisez ? Qui les a mis dans la barque ? Qui a mis les disciples dans la galère ? Je ne sais pas si ça vous parle plus quand je dis comme ça. Qui a mis les disciples dans la galère ? Jésus ! Jésus, savais-tu que ça allait être la galère ? Dis-le moi, Jésus ! En toute honnêteté, droit dans les yeux, oui. Attends, tu savais que j'allais passer par cette épreuve dans ma vie ? Que j'allais passer par cette maladie ? Que j'allais subir ce crack sentimental ? Et tu m'as dit, vas-y ma petite, t'es dans la barque ? Allez ! Bon voyage.
Oh ! La moindre des choses, c'est de monter avec nous.
Non. Dieu t'a mis et il a dit, ça fait partie de ta vie. Mais dans ton voyage, je te donne une parole. Je t'attends de l'autre bord. Et tant que j'ai décidé que tu serais en vie, tu seras en vie. Et personne, rien ni personne ne pourra t'arracher de la main de Dieu qui contrôle. Ton voyage va être pénible, mais tu arriveras à bon port. Oui, mes amis, on mourra tous un jour. Même après avoir vécu 4 miracles et 2 guérisons, un jour, on passera quand même de l'autre côté. Et vous savez pas quoi ? Ça fait partie de la vie, la mort. Et c'est pour ça qu'il a créé la vie après la vie. Non, la vie après la vie. Oui, il y a la mort au milieu, mais moi, je vois de la vie avant et la vie après. La vie après la vie. On a un petit passage, un tunnel que j'aime pas beaucoup, qui s'appelle la mort. Dans la vie, on a des petits tunnels qui s'appellent l'hôpital, qui s'appellent rupture sentimentale, qui s'appellent licenciement. Ça, c'est horrible. Des fois, le tunnel, il est trop long, je suis d'accord.
Des fois, le tunnel, il dure une nuit. Des fois, le tunnel, il dure plus qu'une nuit. Mais Dieu est au contrôle du tunnel et il est OK avec l'existence de tunnel. Il a créé ça et Dieu n'a pas peur de me laisser avoir peur. Maintenant, moi, j'ai une question. Est-ce que Dieu est en retard? Oh, ça, c'est un petit peu drôle. Parce que des fois, on se dit, Seigneur, quand même, t'es... Je vais rien dire. T'es Dieu. Tu savais qu'on allait monter dans la galère. Déjà, c'est une chose, j'ai du mal à l'avaler, mais bon, à la rigueur, je l'accepte. Mais quand même, nous avoir fait attendre, en hébreu, il est dit jusqu'à la quatrième veille de la nuit. C'est-à-dire entre 3h et 4h du matin. 3h, 4h du matin, 5h peut-être, ça peut aller jusqu'à 6h. Vous êtes cuit. Je veux dire, après toute cette fatigue, après tout, même moi j'ai fait des ados qui me disaient, oui, il fait nuit blanche et tout ça. Dès 2h du matin, il y en a qui clignotent. Ils passent en mode clignotant, ils étaient en plein phare jusqu'à minuit. Et à partir de 2-3 heures, ils passent en mode clignotant. Et les plus motivés de mes ados de 15 ans qui disent « Ouais, on va faire la nuit blanche et tout !» La quatrième veille, le 3h, 6h, il y en a qui sont là, mais ils sont plus là. Ouais. Parce qu'ils sont cuits. C'est juste par orgueil qu'ils ne sont pas en train de dormir, mais ils sont déjà en train de dormir en fait. Et je me dis « Ok, Dieu, t'as attendu tout ce temps-là. » J'ai un petit garçon qui a appris à prier. Jusque-là, j'en suis très fier. Il a appris à prier avant le repas. Très bien. Et mon petit garçon, de temps en temps, je ne sais pas ce qu'il lui prend, pour jouer au super spirituel, me fait des prières de 4 km de long avant de manger. Merci Seigneur pour les pâtes. Merci pour le gruyère sur les pâtes. Merci pour le gruyère, les pâtes et pour le jambon. Merci parce que c'est mieux que ce que cousin Jonah il a, parce que lui, il a des pâtes, du jambon. Et puis Seigneur, ça me fait penser au TGV. Merci parce que le TGV de Valence... J'écoute, le TGV, il se porte très bien, Ethan. On va abréger la prière. La parole de Dieu dit, ce n'est pas à force de prière. Vous savez, tous les impatients, ils aiment ça. Ce n'est pas à force de... Bon, moi, je suis un impatient, moi. Mais je culpabilise à dire à mon fils d'arrêter de prier. Mais je me dis, mais attends, Seigneur, là, j'ai bien compris que tu avais besoin de prier pour les disciples et que tu nous as mis dans la barque, il était 18h. Franchement, est-ce que ça t'aurait gêné, vu que le lac, il est quand même pas super long, de prier un petit peu moins? Oh, Seigneur, si tu avais arrêté de prier à 2h, on ne peut pas t'accuser de manquer de zèle. Tu aurais prié de 18h à 22h, à minuit, à 2h du matin. Puis à 2h, pendant qu'on était en train de ramer, tu serais venu tranquillement. Voilà. Non, mais là, tu attends qu'on soit mais cuit de cuit pour arriver. T'es en retard. Non, il en avance. La vidéo aussi, d'ailleurs. La vidéo, c'est vous êtes numéro 6. Dieu n'est pas en retard. Il a même de l'avance. Dans l'évangile de Marc, vous savez, Matthieu, c'est Matthieu qui écrit cette histoire. Il était dans la barque, il a ramé comme les autres. Mais il y a un certain Simon-Pierre, celui qui est sorti, il a mis un détail génial. Simon-Pierre n'a pas écrit d'évangile, il a demandé à Marc d'écrire à sa place, parce que Marc était son secrétaire. Et quand vous lisez dans l'évangile de Marc, au chapitre 6, au verset 48, vous avez un détail génial, qui était très important pour Pierre, qui est suivant. Est-ce que ça peut s'afficher? Marc 6, 48, on arrive à la fin, je vais vous quitter bientôt. Le temps a tourné, mais il y a encore une leçon spirituelle à entendre là. Marc 6, 48. Jésus les a mis dans la barque, et il y a le vent qui arrive. Il vit que ses disciples avaient beaucoup de mal à ramer, car le vent leur était contraire. À la fin de la nuit, il se dirigea vers eux en marchant sur les eaux du lac. Qu'est-ce qu'il y a marqué après? Il voulait les dépasser. C'est-à-dire que Jésus avait un coup d'avance. Jésus n'était pas en train de... Il n'avait même pas prévu, en fait, de venir les rejoindre sur le lac. En fait, Seigneur, tu voulais qu'on traverse le lac sans aucune aide? Oui. J'avais prié pour vous et vous aviez suffisamment d'énergie et de force ensemble, vous étiez capable de traverser le lac en entier. Mais quand je suis passé devant vous, vous avez paniqué et j'étais obligé de monter dans votre barque et de calmer le vent. Mais à la base, j'avais un coup d'avance et je vous attendais de l'autre côté. Waouh ! J'ai un souvenir qui remonte de la classe de 4e. Vous aimez l'endurance? Moi non plus. La classe de 4e où un professeur, soi-disant, qui vous aime, vous dit « C'est bon pour votre cœur de faire de l'endurance. » Moi, franchement, à 13 ans, mon cœur, c'est pas ma priorité. Maintenant que quelqu'un qui a fait 2 infarctus dise « Oui, je veux faire plus de sport », je comprends. Mais qu'un jeune de 13 ans soit obligé de faire autant de tours pour rien du tout, des stades, juste comme ça pour faire... Et je me rappelle ce petit...
J'ai pas de sentiment bon à son égard, donc je vais pas trop...
Mais ce gars qui se faisait le malin, qui courait plus vite que nous, et qui faisait ce qu'il faisait, non seulement il nous dépassait dès le début en nous mettant une longueur d'avance, mais il avait, puisque c'est une piste ronde, il avait le culot de venir en face, et quand il me grillait, non, moi j'étais là, il arrive en disant, salut. Attends, arrête-toi là, arrête-toi, j'en peux plus. Tu peux pas me donner un tour s'il te plaît. Non, il me grillait, vous voyez. Puis il me mettait un tour, et puis deux tours. Ça vous tue le moral. Et quand Jésus passe, il leur casse le moral parce qu'il est à pied. Les autres, ils sont en train de ramer. Jésus, il est à pied. Salut les gars, à plus. Ah, un fantôme. C'est ça qui se passe en vrai. Et là où le grand malade génial de Simon-Pierre saute de la barque et va le rejoindre. Alors mon dernier point, faut que je m'arrête là. Dieu connaît tes limites. Simon-Pierre, je vous ai dit qu'il a des amortisseurs, mais il est quand même en train de se noyer. Et Jésus, il est dit, quand il le vit se noyer, immédiatement, Jésus, verset 30, 31, lui tendit la main et le saisit. Quelle est la taille de la main de Jésus?
Regardez votre bras, tendez votre bras. Vous avez quoi? Vous avez, pour les plus courts, quelques centimètres, pour les géants, il y en a quelques-uns ici, ça va plus loin. Bon, je ne sais pas quelle est la taille de Jésus, il a quoi? Il a un mètre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Simon-Pierre était à un mètre de Jésus. Non, 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 tu ne comprends pas.
Quand il a vu le fantôme, quand il ne savait pas, c'est qu'il ne le discernait pas. Je sais pas moi, je sais pas si quelle était. J'ai pas l'éclairage de la lune. Je sais pas quelle était la lune. En plus, il y avait des vagues, donc il voyait Jésus, il le voyait plus. Il voyait Jésus, il le voyait plus. Mais il est à quoi? Il est à 10, 15, 20 mètres de Jésus. Et là, il me dit qu'il est arrivé à 1 mètre de Jésus. Ça veut dire que il a pris la première vague. Olé! La deuxième vague. Olé! Il lui reste plus que 10 mètres. Allez, 7 mètres, 6 mètres, là je vous le fais parce que ça dure en fait, 5 mètres, et là, ouais mon gars tu fais quoi là? Mais c'est énorme là en dessous, il y a du vent, il n'y a rien qu'à changer, il a perdu la fixation, et là à 3-4 mètres, il bug, et là l'eau elle monte. Il se rend même pas compte qu'il a des amortisseurs divins, parce que lui, il voit juste l'eau qui monte, quoi. Et là, il peine, et à un mètre, il va se noyer. Est-ce que t'es passé par la maladie? Est-ce que t'es resté fidèle à Dieu? Oui. La première vague, tu l'as sautée, et t'es resté fidèle au Seigneur et t'as gardé la foi. En plus, par la suite, ta famille t'est arrivé des coups terribles. T'as pas vu la vague arriver. T'as réussi à la sauter. Ça t'a coûté, mais t'y es passé. Et puis, il y en a une autre, et puis il y en a une autre. Et puis, t'as été blessé à l'église, mais t'as dit, Seigneur, je pardonne. Alors, je vais prendre cette vague dans la figure. Je la comprends pas, mais je vais quand même la passer. Et puis, t'en as eu. Et puis, tu arrives à un mètre. Et là, tu dis, ah ben non, Seigneur. Je quitte l'église, je crois plus en Dieu. Vous savez ce que Jésus lui a dit? Vous savez, j'ai eu du mal pendant longtemps à comprendre pourquoi Jésus va faire un commentaire, je trouve terrible, sur Simon. Il va lui dire, homme de peu de foi. Je lui dis, franchement, c'est pas juste. T'as les 11 planqués dans la barque, t'en as un qui ose sortir et tu lui dis, homme de peu de foi. C'est pas homme de peu de foi parce que Jésus avait envie de faire du mal à Pierre. Jésus dit ça parce qu'il est extrêmement frustré. Parce qu'il dit, Pierre, tu as fait 19/20e. Le plus grand miracle de ta vie et t'as calé à un mètre du bout. Alors c'est bête. Comme il le dit un peu plus gentiment, il dit en hébreu, l'hébreu c'est cache. Vous allez dans la Bible Chouraki, en mot à mot en hébreu, l'hébreu n'a pas de mot abstrait. Le mot foi, c'est le mot adhérence. Vous avez des pneus ? Voilà, c'est ça. L'adhérence, c'est la capacité à ne pas glisser et à ne pas déraper quand ton sol est glissant. La foi, c'est être capable de tenir et d'accrocher, d'adhérer à un moment où, normalement, on lâche. Quand Jésus dit « Ayez la foi, ayez foi en Dieu », c'est rester accroché avec adhérer. Et beaucoup de l'adhérence, il en a eu. Il en a eu pendant tous les premiers moments où il a fait les vagues les unes après les autres. Ses pieds avaient de l'adhérence même sur l'eau. Mais il arrive à un point où c'est pas homme de peu de foi. En hébreu, c'est nain. Voilà, dis donc, c'est direct, Seigneur. Il lui dit, Pierre, là-dessus, sur la fin, t'es comme un nain dans la foi. T'es un bébé, quoi. T'es comme un petit garçon. T'es comme quelqu'un qui a 3 ans. Alors, je vous conclue avec cette anecdote. Parce que moi, ça me parle. Un jour, et ma mère, elle l'aurait compte mieux que moi parce que ça l'a marqué. J'ai la chance d'avoir un grand frère. Il y en a qui ont un grand frère. C'est bien d'avoir un grand frère. J'ai aussi une grande sœur. C'est bien d'avoir une grande sœur. Sauf que du coup, quand vous êtes le 3e de la famille, ils vous mettent une tonne de pression et de frustration. Parce qu'ils viennent vous, le grand frère qui a 7 ans de plus, il vient en vélo, il fait un dérapage. Et... Ah, t'as vu, je me mets en danseuse sur le vélo, j'avance trop vite. Toi, t'es là. C'est bien, Frédéric. Waouh, j'aimerais faire comme toi. Puis après, j'ai ma sœur qui vient. Ouh, regarde, t'as vu, je fais trop bien du vélo. Moi, j'ai pas de petites roues. Moi, j'ai pas de petites. Et moi, j'étais avec mon petit vélo, là. Et mes équilibreurs, en train de pédaler comme un malade pour avancer 3 fois moins vite que les autres. Et j'ai passé une journée épouvantable. Et ma mère aussi. Elle m'a parlé en breton parce que je ne sais pas s'il y a un équivalent en français. Elle m'a dit cette journée-là, mais t'as été pignous. Mais pignous. En breton, ça. Tu sais, quand tu dis des choses, des fois tu parles créole, des fois tu parles la langue de chez toi. Et là, ma mère, ça sort des fois en breton quand c'est des émotions intenses. Ça veut dire que j'ai pleuré toute la journée, mais que je lui ai pris la tête par mes pleurs. Parce que dès le matin à 9h, tu dis maman, le vélo, il est nul. Maman, le vélo, il avance pas. Maman, j'en ai marre, je fais mal ici. À midi, maman, le genou, j'ai mal. Mais tu m'as pris la tête. Et jusqu'à 18h, tu venais tous les 5 minutes pour pleurer. Et moi, j'étais là, mais qu'est-ce que être maman, c'est vraiment un ministère. Et le temps passe, et à 18h, mon soleil de justice à lui. Le Seigneur m'a rétabli dans ma justice. Parce que mon père, à force que je lui tape sur le système, a décidé, on va quand même voir son foutu vélo. Il est venu voir mon vélo, et il m'a dit, mince, t'as un équilibreur qui est vraiment voilé. J'avais un équilibreur qui partait en vrille. Alors mon papa, on avait un atelier, il a dévissé avec son écrou l'équilibreur, il a pris les équilibreurs et il est parti les réparer. Donc là déjà, merci Seigneur, c'était pas du cinéma. C'est pour ça que je dis mon soleil de justice. Mais mon soleil de justice a fait plus pour moi, il m'a fait rentrer dans la gloire. Parce que pendant que mon papa est parti réparer l'équilibreur, j'ai fait du vélo sans équilibreur. Vous comprenez l'idée? Pendant toute la journée, dans les plus durs moments, c'est là que vous apprenez vos plus belles leçons. Me dites pas que vous pouvez échapper. Oh, j'aurais aimé ne jamais tomber en vélo. Mais c'est parce que je suis tombé et beaucoup tombé que j'ai appris à faire du vélo sans mes petites roues. Quand tu comprendras cette leçon, c'est que dans la nuit où Dieu t'enlève tes petites roues. Bien sûr, c'est désagréable. Mais c'est comme ça qu'on te fait grandir. Dieu connaît tes limites, mais c'est comme ça que tu vas grandir. Parce que Dieu veut te faire grandir. Oui, tu vas tomber et tu vas te relever. Oh, je bénis Dieu, parce qu'il n'est pas comme quelqu'un qui veut me faire tomber, qui veut me pousser pour me faire du mal. Non, il veut juste m'aider à grandir. Et il est là, et après, quand j'ai vu ma maman et mon papa qui m'aiment bien, eh ben, ils m'ont dit, Yvan, franchement, on est fiers de toi. Et c'était un moment de joie. Ma journée la plus horrible est devenue une de mes plus belles journées. Et aujourd'hui, quand j'en parle, je peux avoir un sourire alors qu'en fait, j'ai pleuré tout le temps. Est-ce que tu comprends que quand tu passeras par là, tu pourras dire, Dieu, tu es mon Seigneur et mon Dieu. Et du coup, les disciples, quand il va rentrer dans la barque, les hommes qui se trouvaient dans l'embarcation se prosternèrent devant lui en disant, tu es vraiment le Fils de Dieu, à Jésus. parce qu'il aura tout calmé. Il a grandi, Pierre. C'est encore un nain. Mais le nain, un jour, deviendra un géant. Maintenant, est-ce que tu es prête à grandir, ma sœur? Est-ce que tu es prête à grandir? Parce que c'est ceux qui vont jusqu'au bout. Ce n'est pas à un mètre. Vous savez, si Pierre s'était arrêté à un mètre et qu'il s'était noyé, il en aurait voulu à la terre entière et à la mer entière, d'ailleurs. Il aurait dit, franchement, c'est tous des lâcheurs. Les 11, il n'y en a pas un qui est venu m'aider. Ils sont tous restés planqués dans la barque. C'est une église nullissime. Franchement, fidèle et fraternel à la vie, à la mort. Ouais, à la mort pour moi, pas pour eux. C'est vraiment que des lâcheurs. Cette église, il n'y aura pas de communion fraternelle. Ils m'ont laissé me noyer tout seul. Jésus. Il m'a dit, viens, et il ne m'a rien fait pour moi. Et tu serais amer parce que tu lâches avant. Mais je bénis le Seigneur. Parce que pour celui qui ose s'approcher vers Jésus, déjà, il y a des amortisseurs. Et Dieu, il te tiendra même quand toi, tu n'es pas fidèle. Je bénis le Seigneur qui me fait grandir. Tu veux tout abandonner? Eh bien, tu ne grandiras jamais. Tu veux rester dans ta barque? Eh bien, reste dans ta barque, dans ton hôpital-prison. Mais tu passeras à côté de ta vie. L'heure est arrivée. Il faut vraiment que je vous dise au revoir. Mais j'ai une pensée à vous donner. Simon Pierre. Il s'est planté plusieurs fois. Il a coulé plusieurs fois. Plusieurs fois, ses jambes, excusez-moi, mais ses jambes n'ont pas tenu le choc. Parce que dans sa tête, il avait un combat, ses jambes n'ont pas tenu le choc. Et je vois que Jésus-Christ meurt, il ressuscite, et qu'un jour, sur une montagne, Jésus leur dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, et vous ferez des choses plus grandes encore. » Et je pense à Simon-Pierre qui doit dire, « Franchement, Seigneur, ça va être dur. Déjà, j'arrive même pas. » Mais vient la Pentecôte, il est rempli du Saint-Esprit. Une force venant sur lui, qui vient du ciel, lui donne un pouvoir incroyable. Et je vois, dans le livre des Actes des Apôtres, le même Simon-Pierre, dont les jambes tiennent pas la route, qui voit, lorsqu'il va au temple pour louer Dieu, un homme dont les jambes ne tiennent pas la route. Et Simon le regarde droit dans les yeux et lui dit quoi? Quand il voit ce personne qui est paralysée des jambes, il lui dit, je n'ai ni or ni argent, zéro moyen personnel, mais ce que, ah, vous ne l'aviez pas vu ça, ce que j'ai, je te le donne. T'as quoi, Simon? Il a l'expérience de celui qui, après avoir lâché ses jambes, sait maintenant marcher dans les endroits impossibles. Et il dit à cet homme, tiens-moi la main. Et là, c'est comme Jésus lui avait fait. Il lui dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et cet homme-là, merci, se lève. Oh, ça me donne envie de prêcher. Et cet homme se lève. Et il ne va pas s'arrêter de marcher. Hein. Il va tenir. Lui aussi, certainement, cet homme a dit, oh, c'est bizarre, je tiens debout, c'est bizarre. Mais il est allé jusque dans le temple et il s'en va sautant, louant Dieu. Et Simon dit, Jésus de Nazareth est capable de le faire. On ferme les yeux, Seigneur. Y a-t-il quelqu'un qui veut marcher sur l'eau? Il y a des leçons que tu n'apprendras que dans les moments les plus durs. Seigneur Jésus, tu es Dieu. Et je ne veux pas prétendre lutter contre toi. Tu sais ma vie. Avant que soient démarrés mes jours, tu savais leur nombre. Avant que je passe par cela dans la vie sentimentale, dans ma vie financière, dans mon travail, avant que je connaisse ça dans ma famille, que je sois même pris par derrière des personnes qui m'ont fait du mal. Tu savais ça. Et tu n'avais pas peur que j'aie peur parce que tu savais que tu me tiendrais. Même dans mes moments de doute, des amortisseurs divins m'empêcheraient de sombrer. Il ne sommeille ni ne dort, le gardien d'Israël. En fait, pendant qu'ils étaient en train de lutter, il était même en train de prier. T'es sur le point de tout abandonner. Et Dieu est absent. Non, Dieu n'est pas absent. Il est en train de t'intercéder auprès de son Père que tes jambes ne lâchent pas. Y a-t-il quelqu'un qui est prêt à dire, Seigneur, je sors de ma barque et jusqu'à ce que je te touche, jusqu'à ce que ta main ne prenne ma main, je vais me lever et je vais marcher. Et je vais marcher. Et sur mon lit d'hôpital, je marcherai. Et dans mon célibat, je marcherai. Et dans ma galère financière, je marcherai. Il est à mes côtés et j'avance dirigé vers Jésus. Y a-t-il quelqu'un cet après-midi qui entend ce message, toi peut-être par Internet? Tu veux te lever, alors fais-le. Que quelqu'un te voie ou que personne ne te voie, c'est pas ça. La question, y a-t-il ici un homme, une femme, qui, en entendant ce message, dit « Seigneur Jésus, mes jambes sont fatiguées, mon moral n'est pas bon, mais au nom de Jésus-Christ, je me lève, je marche, lève-toi debout, lève-toi maintenant, maintenant, lève-toi. Va prier ensemble, lève-toi. » Il veut juste t'aider à grandir. Mets-toi debout.
Montre-moi la voie. Dis-moi où aller. Où tu voudras j'irai. Tu ouvres la porte, celle qu'on ne peut fermer. Si tu es là, j'irai. Montre-moi la voie, dis-moi où aller.
Tends la main vers Jésus, lui, il est d'accord.
Tu voudras j'irai.
Serre la main de Jésus maintenant.
Tu ouvres la porte, celle qu'on ne peut fermer, si tu es là, j'irai. Montre-moi la voie, dis-moi où aller, où tu voudras, j'irai. Tu ouvres la porte, celle qu'on ne peut fermer, si tu es là, j'irai. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, de déposer à tes pieds, Jésus. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage
ensemble, on peut tous se lever ensemble.
Déposer à tes pieds, à tes pieds, Jésus.
Alléluia. Car toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. de ceux qui, comme toi, comme moi, sont appelés selon son plan divin. Alors pendant que tu te rassois, tu lui dis à ton voisin,
eh oui, toi aussi tu peux marcher sur l'eau.
On n'a pas les mêmes eaux, mais on a les mêmes galères. Et on peut les traverser.